إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوتي الكرام. Dans cette nouvelle série de conférences intitulée « Les raisons des problèmes dans la da'wah, dans la prédication », nous allons aborder un sujet de la plus haute importance, à savoir les caractéristiques du prédicateur. Nul doute que nous avons tous conscience du devoir de se renseigner sur la personne dont nous souhaitons prendre notre religion. Nous avons assurément entendu la parole du célèbre imam Mohammed ibn Sirin, rahimahullah, rapporté dans la préface de l'authentique de l'imam muslim, « Inna hadha al-ilm dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum » Certes, cette science est une religion, regardez donc de qui vous prenez votre religion. Cette parole est même devenue le slogan de maison d'édition. Seulement, qui connaît véritablement les caractéristiques que l'on doit retrouver chez la personne chez qui l'on souhaite prendre notre religion ? La méconnaissance de ces critères a malheureusement mené nos jeunes à apprendre leur religion auprès de personnes ne les réunissant pas et à se baser sur des caractéristiques n'apportant aucune réponse à cette question, telles que « il a étudié au Yémen, à Médine, à la Mecque, il est diplômé de telle faculté, il a étudié tant d'années, il a assisté à l'explication de tel livre, il a étudié auprès de tel shir. Il est connu de tels prédicateurs francophones, il est salafi, etc. » L'absence d'éclaircissement de ces critères a fâcheusement conduit à la multiplication de ces comptes sur les réseaux sociaux et sites religieux dont nous ignorons tout des personnes qui sont derrière. Cela a également conduit à d'importantes discordes et de nombreux problèmes dans la da'wah. Le manque d'observation de ces critères a désastrement abouti à des mises en garde trop souvent irrégulières et à faire douter nos jeunes du ménage salafi et à ne plus faire confiance aux prédicateurs. Il est alors devenu plus que nécessaire de mettre en lumière ces problèmes affectant la da'wa depuis trop longtemps et d'en expliquer les raisons et les méthodes permettant d'y remédier. Ceci afin d'apporter un conseil aux musulmans en général et aux salafis en particulier, conformément à la parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna ad-din an-nasiha, la religion est le bon conseil. Néanmoins, il faut dès à présent bien comprendre que cette prise de parole n'a pas pour objectif d'analyser le cas d'une personne en particulier ou de nommer de qui on peut prendre la science et de qui on ne peut pas la prendre. J'ai déjà clarifié dans la conférence intitulée « La désertion des problèmes méthodologiques » entre vérité et fausseté, ne pas être la personne habilitée à être questionnée initialement sur ce sujet et ayant l'autorité pour émettre des recommandations et des critiques, car je ne prétends pas satisfaire les caractéristiques fixées pour cela. Ceci est la charge de nos savants, de nos érudits. Ikhwati al-Kiram, cet éclaircissement fait, il faut savoir qu'après l'examen des problèmes affectant la da'wah, nous constatons qu'il renvoie à deux raisons principales. Soit à une défaillance scientifique, soit à une défaillance d'éthique et de comportement. Aussi, nous allons commencer par mentionner celles renvoyant à une défaillance scientifique. Effectivement, les erreurs et les transgressions remarquées dans la prédication sont principalement le résultat d'un manque d'enracinement scientifique. Cependant, pour en comprendre aisément les raisons et y remédier, il faut d'abord savoir que l'enracinement scientifique consiste à l'acquisition de la bonne compréhension et l'accroissement des connaissances. C'est ainsi que la personne accède au rang distingué d'étudiant en sciences émérite et de prédicateur. Aussi, plus la personne accroîtra ses connaissances, plus elle acquerra l'aptitude lui permettant d'émettre des conclusions, de faire prévaloir des avis sur d'autres, de réfuter des ambiguïtés, jusqu'à atteindre l'éminent titre de savant éducateur enraciné, Inch'Allah ta'ala. Donc la première étape, si l'on peut s'exprimer ainsi, est l'acquisition de la bonne compréhension, puis s'ensuit l'accroissement des connaissances. D'ailleurs, cela est en réalité le minimum que l'on doit retrouver chez celui qui se met en avant dans l'enseignement et la prédication. L'étudiant en sciences, le prédicateur, doit avoir une bonne compréhension et des connaissances abondantes. C'est pourquoi n'est pas un étudiant en sciences ou un prédicateur celui qui n'a lu qu'un ou deux livres. Au contraire, celui-ci ne peut qu'avoir des lacunes et ne peut pas comprendre les paroles des savants et les preuves. Ikhwatil kiram, aussi, pour que la personne accède à ce niveau, il y a un cheminement devenu presque inadapté de nos jours, qui est celui emprunté par les savants depuis longtemps, et que l'on peut résumer en trois étapes qui sont les suivantes. Premièrement, l'étudiant doit suivre une vraie étude méthodologique et adaptée auprès des savants, de sorte à étudier certains livres précis, dont je ferai l'énumération dans une autre série de conférences autour de l'étude de la science, Inch'Allah ta'ala. Il est donc très important de bien comprendre cela, car malheureusement, beaucoup de personnes qui débutent leur étude, même auprès de savants, ne suivent pas une vraie étude méthodologique adaptée. Ils étudient alors des livres inappropriés à leur niveau, ce qui les empêche d'acquérir la science et de s'enraciner dans celle-ci. Ensuite, l'étudiant doit lire les livres de référence dans la matière dans laquelle il se spécialise, en commençant par les livres considérés comme encyclopédies. Il les étudie minutieusement en notant les profits qu'il en retire. Puis, lorsque l'étudiant maîtrise cette étape, il approfondit la matière dans laquelle il se spécialise et dans les sciences gravitant autour de sa spécialisation, en donnant priorité à la plus importante. Par exemple, lorsqu'un débutant étudie la question de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants le jour de la résurrection, il doit commencer par étudier ce sujet avec ses preuves. Ensuite, il approfondit son étude des preuves et apprend les paroles des gens de l'innovation dans leur négation de la vision. Puis il élargit encore plus sa connaissance des preuves et des principes des gens de l'innovation et de leur ambiguïté et comment les réfuter. Pour citer un autre exemple, par rapport à l'étude de la science du hadith. Cette science est composée de nombreuses matières. La terminologie des gens du hadith, Mustalah al-Hadith. Il y a aussi al-Jarh al-Ta'dil, la critique et l'éloge. Il y a une matière qu'on appelle al-Ilal, qui consiste à étudier les ahadiths et en dénoter les défauts qui sont remarqués lorsque l'on compile les chaînes de transmission et les versions de narration. Pour une personne qui commence son étude dans la science du hadith, elle va d'abord commencer par un épître concis et de référence, tel que Al-Mudhakkira ou encore Al-Bayquniya. Une fois qu'il aura fait cette étude, il passera à un livre plus détaillé dans lequel il verra les divergences que les savants ont eues dans ces terminologies, telles que Al-Muqidha de l'imam al-Dhahabi ou encore Al-Nuzha de l'imam Ibn Hajar. Et une fois que l'étudiant aura étudié ces livres auprès d'un savant, alors il va commencer à intensifier ses connaissances en prenant les encyclopédies dans cette matière, telles que Al-Muqaddimat l'Ibn Salah, qui est le livre de référence dans Mustalah al-Hadith. Une fois étudié ce livre, il va prendre les explications qui ont été faites des savants de ce livre en notant les profits qu'il en retire. Et une fois qu'il a fini donc cette longue étude, il va commencer à étudier les sciences qui gravitent autour de la science de Mustalah al-Hadith, c'est-à-dire Al-Jarh wa Ta'dil. Il va prendre un livre comme Tahdhib al-Tahdhib de l'Hafidh ibn Hajar et il va le lire complètement pour en retirer et en comprendre le langage de l'imam ibn Hajar dans ce livre-là. Quand est-ce que il qualifie une personne de sadouq? Quand est-ce qu'il la qualifie de thiqa? Quand est-ce qu'il la qualifie de daïf? Quand est-ce qu'il la qualifie de matrouk? Afin de comprendre son langage et les raisons qui l'ont mené à qualifier ces personnes ainsi. Si l'étudiant ne passe pas par ces étapes, il lui sera alors impossible de comprendre le langage des savants. Et il lui sera impossible de s'enraciner dans cette science. Par la suite, il continuera de faire ainsi dans les livres de Hilal, comme Al-Hilal al-Kabir ou Al-Hilal al-Saghir de Tirmidhi, ou encore Al-Hilal de Ad-Darqutni, ou encore Kutub al-Marasil de Abi Daoud ou de Abi Hatim, et ainsi de suite. Cependant, avec le changement d'environnement et d'époque, avec la baisse de détermination et d'autres nombreuses raisons, nous en sommes venus à nous contenter du fait que l'étudiant soit capable d'expliquer un livre, de transmettre les paroles des savants fidèlement, de réfuter certaines ambiguïtés connues et autres. Il y a donc une grande différence entre ces deux méthodologies. Néanmoins, il ne faut pas rabaisser, ni dénigrer, ni critiquer les étudiants et les prédicateurs n'ayant pas suivi le même cheminement que celui des savants dont je viens d'évoquer. Sans quoi, nous nous retrouverions à ne laisser que très peu de personnes enseigner et prêcher, voire aucune. Par exemple, à l'époque, il n'était pas convenable qu'une personne soit qualifiée de savant et se mette en avant sans avoir lu les 6 livres de compilation de hadith, à savoir Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i ou Ibn Majah. Particulièrement celui dont la spécialité était la science du hadith. Néanmoins, pouvons-nous appliquer cela de nos jours? C'est impossible. Évincer les étudiants en sciences et les prédicateurs parce qu'ils n'ont pas suivi ce cheminement est seulement le discours de ceux qui ont une maladie dans les cœurs. C'est la méthodologie des Haddadis et ceux affectés par leurs ambiguïtés, comme nous l'expliquerons dans une prochaine allocution, inshallah ta'ala. Ainsi, ikhwatil kiram, pour conclure, nous avons vu ce qu'était l'enracinement scientifique et quelle était la méthode pour y accéder. Nous avons aussi expliqué quel était le niveau scientifique requis pour se mettre en avant dans l'enseignement et la prédication de nos jours. Wa naktafi bi hadha al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.